Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 19 juin 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, depuis la dernière semaine, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention?
Bien, tout d'abord, hier, on a encore des marchés américains qui ont atteint de nouveaux sommets historiques, entre autres sur le S&P 500. Et on a aussi un nouveau leader parmi les plus grandes entreprises, les plus grandes capitalisations boursières au monde. Donc, Nvidia est tombé numéro un devant Microsoft et Apple. Il n'y a vraiment pas une grosse différence. Là, c'est trois entreprises là, qui ont une capitalisation boursière très, très proche. Mais ça faisait quand même plusieurs années que Microsoft avait la pole avec Apple. Ils s'échangeaient la pole les deux. Et là, Nvidia arrive au premier rang maintenant. Aujourd'hui, les marchés américains sont fermés. On célèbre le Juneteenth. C'est quoi ça, le Juneteenth? C'est la journée qui marque la fin de l'esclavage aux États-Unis. Donc, une journée très importante dans l'histoire américaine. Donc, qu'est-ce qui retient notre attention au niveau des bourses? Ce qui retient le plus mon attention, c'est la baisse des taux d'intérêt. Donc, d'une part, on a la Banque du Canada qui a bougé là il y a une couple de semaines, mais les marchés financiers continuent de faire baisser les taux sur les marchés obligataires à 5 ans, les échéances de 5 ans, de 10 ans. Donc, la semaine passée, une obligation de 10 ans du Canada était à 3,47. On est à 3,27 aujourd'hui, un autre 0,2. On était à 3,63 à la fin de mai. Donc, c'est quand même assez significatif. Qu'est-ce que ça fait quand les taux d'intérêt baissent sur les marchés obligataires? Bien, la valeur au marché des obligations augmente. Donc, cette semaine, donc en 5 jours ouvrables, l'indice obligataire canadien est en hausse de 1,4% en une semaine, 2,5% en un mois. Donc, tu sais, si on fait 12 fois dans l'année 2,5%, ça fait tout un rendement sur un marché obligataire, évidemment. C'est peu probable que c'est ça qui va se produire, mais quand même, là, c'est assez significatif comme rendement pour un marché obligataire, 2,5% en un seul mois. Du côté des actions, bien, le TSX continue de souffrir un peu en baisse de 1,3 cette semaine. Les matériaux, les banques, le pétrole, donc c'est tous des secteurs là, qui sont à la baisse. C'est des secteurs importants dans notre indice. C'est des secteurs qui ne performent pas depuis un mois. Donc le TSX est en baisse de 3% depuis le début du mois de juin, 1,3% cette semaine, un maigre 3% de performance depuis le début de l'année. Alors qu'aux États-Unis, le S&P 500 est en hausse de 2% cette semaine, 4% depuis le début du mois de juin, 15% depuis le début de l'année. Le Nasdaq, 19% depuis le début de l'année. Donc, excellente performance. Je suis juste allé vérifier. On a parlé, bon, on a Nvidia, Microsoft, Apple. Je suis allé sortir le rendement de l'indice S&P 500 équipondéré, equal weight. Donc, si on prend les 500 compagnies puis on leur attribue un poids identique dans l'indice, plutôt que actuellement, l'indice est pondéré en fonction de la valeur boursière des entreprises. Donc, les Nvidia, Microsoft, Amazon, ainsi de suite, sont très importants dans l'indice, alors que les plus petites entreprises ont moins d'importance. Donc, si on avait juste l'indice équipondéré, puis ça vient un peu mesurer c'est quoi l'impact de ces 4-5 grosses compagnies technologiques. Si j'ai le S&P 500 équipondéré, j'ai pas fait 15,7 cette année, j'ai fait 5,1. Presque en ligne avec le TSX. Sur 3 ans, c'est 5,8% de rendement annuel pour l'équipondéré versus 11,3%. C'est presque le double de rendement de l'indice. Comme quoi, juste de ne pas détenir 2-3 titres dans l'indice, ça peut avoir un impact important. Et quand on regarde les objectifs individuels d'un client, est-ce que je suis retraité, je veux du revenu, je veux de la prudence? Est-ce que c'est normal que je sois sous-pondéré dans des titres de technologie? Peut-être. Ça peut expliquer, s'il y en a qui se comparent à des indices, ben, faut un petit peu faire attention aussi en fonction de nos propres objectifs. Les indices, même aux États-Unis, commencent à être un petit peu déréglés au niveau de la pondération. Donc, c'est ce qui retient mon attention là, cette semaine.
Merci, Martin, pour les précisions. La semaine dernière, il y a deux événements qui ont eu lieu. Un, on a eu une rencontre de succursales et on a parlé un peu de sécurité dans notre rencontre de succursales. Et l'autre chose, c'est que j'ai reçu un texto d'une cliente me demandant avec l'image, me demandant est-ce que ça, c'est de l'hameçonnage? Donc, des fois, on se fait interpeller par nos clients parce qu'ils ont reçu un courriel ou un texto de Desjardins. Donc, on a cru...
Qui semble être de Desjardins,
oui. Exact, exact. Qui semble être de Desjardins. Bon point, Martin. Donc, on a cru bon d'adresser le sujet de l'hameçonnage aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens le savent, mais nous, comme conseillers en placement, comme gestionnaires de patrimoine, comme employés du mouvement Desjardins, on doit prendre des cours sur la sécurité de l'information, des cours sur l'anti-blanchissement d'argent, des cours pour comprendre c'est quoi la fraude. Et on apprend toutes sortes de trucs sur les différents stratagèmes qui peuvent exister. Et on est vraiment là, ça nous aide à être à l'afflux pour nos clients, pour protéger nos clients et nos membres. Aussi, il y a un excellent article qui va inspirer notre balado aujourd'hui, qui est disponible en ligne sur Desjardins. Il y a un tas d'informations hein, en ligne sur Desjardins concernant l'hameçonnage. Donc, l'article qui nous inspire aujourd'hui, c'est 13 conseils pour éviter, détecter et signaler l'hameçonnage. Ça, c'est l'article de Desjardins, mais il y a aussi un tas d'informations sur le gouvernement du Canada. Donc, premièrement, Martin, qu'est-ce que l'hameçonnage et quelle est la différence avec l'harponnage?
Ouais, donc c'est la différence entre, si on veut, pêcher au filet ou pêcher au harpon. Donc, si je fais du harponnage, je vais, Sarah, te cibler personnellement. Je vais peut-être avoir fait des recherches sur tes réseaux sociaux. Je suis allé sur Facebook. Je le sais que tu es allé en voyage. Je le sais le nom de ta sœur. Je le sais, toutes sortes d'informations. Donc, quand je t'envoie un courriel frauduleux, ben, tu as l'impression que je te connais parce que je connais effectivement plein de trucs sur toi. Le hameçonnage, c'est vraiment des envois massifs. Donc, on pêche vraiment au filet, on pêche à l'heure. Le fraudeur là, va envoyer là, des milliers de emails, de textos ou d'appels. Là. Donc, tu sais, moi, je sais que je reçois des appels là, comme quoi ma commande Amazon va passer, puis si je veux pas avoir mon frais de 1 400$ alors que je n'ai pas du tout acheté ce truc-là. Là. Donc, puis ça me parle en anglais en plus. Fait que c'est assez évident que c'est du hameçonnage. Donc, c'est ça. C'est vraiment là, la différence entre vraiment se faire cibler personnellement ou recevoir vraiment un envoi de masse qui semble être des fois personnalisé, mais il l'est pas. Là, c'est vraiment. Le fraudeur, il va, on dit en anglais, un numbers game, là, il va en disant je cible 1000 personnes, il y en a peut-être une personne naïve qui va me répondre, c'est celle-là que je vais frauder.
Mais puis on faut dire, hein, parce que tu dis naïve, mais la réalité, c'est que ça peut tout nous surprendre. Ouais. Tu sais, notre capacité intellectuelle ou quoi que ce soit n'a rien à voir là-dedans. Aussi, il faut dire très précisément, nous ne sommes pas des experts en sécurité, nous sommes des gestionnaires de patrimoine. Ouais. Et nous utilisons vraiment l'information qu'on a reçue à l'interne et on le partage avec vous aujourd'hui. Donc, peut-être, Martin, est-ce que tu peux nous expliquer comment qu'on peut éviter et aussi détecter l'hameçonnage?
Prenez une pause avant de cliquer. T'sais, quand on reçoit un courriel, on reçoit un texto, on reçoit l'appel là, qui dit « Ah, si vous n'avez pas fait ça, je vais peser sur un. » Calmez-vous. Là, il n'y a pas de presse à peser. Donc, soyons sceptiques. Définitivement que si on n'a pas sollicité de cette communication-là, on évite de cliquer sur des liens dans un courriel ou un texto. Donc, même ne serait-ce que cliquer sur un lien qui semble être une photo, qui semble être un lien vers un site web, ça peut installer un logiciel espion sur notre appareil. Donc, définitivement, éviter de cliquer si on est dans le doute. On peut juste déliter le courriel si on suspecte que c'est... T'sais, on reconnaît le nom de la personne qui nous l'a envoyé, mais le message est étrange. Prenez donc le téléphone puis appelez-la. C'est-tu toi qui m'as envoyé ça? Ça peut être une bonne idée. Définitivement qu'on doit se méfier quand on nous demande des renseignements personnels ou financiers. Tu sais, l'hameçonnage, ça ne veut pas nécessairement à avoir notre argent. Des fois, l'hameçonnage vise simplement à avoir nos informations de sorte que le fraudeur va ensuite utiliser ces informations personnelles-là pour aller commettre une fraude d'identité. Donc, par exemple, demander du crédit en notre nom. Évidemment, ils ne vont pas rembourser la dette, ils vont nous laisser la dette. Protégez vos appareils. Donc, on peut installer des logiciels antivirus, on peut s'assurer d'avoir des mots de passe de qualité. Puis on sait, là, on est tous dans l'enfer des mots de passe. On a 50 000 mots de passe à retenir. Ils sont tous plus compliqués que les uns que les autres. Et une façon peut-être simple qui nous est suggérée de créer un mot de passe, c'est de penser à une phrase. Alors, on pourrait dire, Sarah et Martin travaillent chez Desjardins, donc mon mot de passe pourrait être S-E-M-T, donc la première lettre de chacun des mots qui composent la phrase. Donc, ça n'a aucun sens pour personne, mais moi, je le sais que cette phrase-là, je sais que mon mot de passe, il vient de cette phrase-là. Ça me permet de plus facilement m'en souvenir, mais la série de lettres puis de chiffres n'a aucun rapport pour personne. Donc ça, c'est une façon là, de créer un mot de passe un peu plus de qualité. Évidemment, on communique pas nos informations de connexion à personne. Là. Donc, tu sais, notre user ID puis notre mot de passe, on donne pas ça au monde. Là.
Est-ce que Desjardins, puis ça, c'est une question parce que c'est vraiment quelque chose que la cliente m'a demandé. Est-ce que Desjardins envoie des courriels et des textos à ses membres et clients?
Oui. La réponse, c'est oui, ça peut arriver. Donc, et moi, ça m'arrive. On fait beaucoup d'achats en ligne. Et quand Visa Desjardins, par exemple, suspecte que peut-être ma transaction pourrait être frauduleuse, je vais recevoir un texto de Visa Desjardins qui va me dire « Vous avez une transaction de 834,72 en cours. » Je suis au terminal au magasin, là, mettons, en train de pitonner mon NIP. Je reçois le texto. Le terminal me dit que ma transaction est refusée. Je réponds « Oui ». Puis là, je refais mon nez, puis ça passe au terminal. Donc ça, là, ça peut arriver. C'est des façons de protéger. Mais évidemment, on reçoit des courriels, on reçoit des avis comme quoi notre relevé est prêt. On reçoit un avis à l'effet que notre paiement de Visa peut être dû. Alors, c'est pas anormal de recevoir des communications de Desjardins. Mais quand on reçoit ces communications-là, on va pas nous demander « Donne-moi ton numéro d'assurance sociale, ta date de naissance, ton adresse, et ainsi de suite. » Là, tu sais, donc, par exemple, le texto là, que je reçois de Visa Desjardins, je réponds oui, tout simplement. Là. C'est la seule information qui m'est demandée. Puis ensuite, ma transaction, elle passe sur le commerçant. Donc, ça peut arriver, effectivement. Donc, on disait de ne pas communiquer ces informations à personne et pas les mots de passe. Donc, normalement, si j'appelle quelque part ou on me sollicite, je me fais coincer, je reçois le courriel, j'appelle le numéro sur le courriel. Puis là, ça me dit « OK, ben donnez-moi votre nom d'utilisateur, donnez-moi votre mot de passe, raccrochez le téléphone. » Il n'y a personne. Les employés de back-office ou les employés de soutien des entreprises n'ont pas vos mots de passe là, habituellement. Moi, celui qui me tient le plus à cœur dans les conseils, là, limiter l'information que vous publiez sur les réseaux sociaux. Ça a donc bien l'air le fun de mettre la photo de son petit chien, de ses dernières vacances, de mettre l'eulogie de sa mère décédée. Mais dans les questions de pour récupérer un mot de passe, bien souvent, c'est quoi le nom de jeune fille de votre mère? Ben vous venez de le publier sur Facebook. C'est quoi le nom de votre premier animal de compagnie? Vous venez de le publier sur Facebook. C'est quoi le prénom de votre enfant aîné? Vous venez de le publier sur Facebook. Ben tu sais, vous donnez quasiment là, la carte blanche aux fraudeurs à utiliser vos informations. Vous avez volontairement donné toutes vos informations sur Facebook.
Puis on le fait de bonne foi parce qu'on veut partager avec nos amis, mais il faut toujours avoir cette conscience en tête. Aussi, sur Facebook, des fois, il y a beaucoup d'hameçonnages, de petites images. Tu peux cliquer ici, puis ils vont poser des questions. Puis là, on répond aux questions. Puis là, on a répondu à un défi quelconque, puis ouais, on a répondu au défi, mais on vient de donner toutes nos informations aussi aux fraudeurs.
Exact. On fait attention qui on admet comme ami. On peut aussi changer les paramètres de sécurité. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être toute la planète qui voit votre histoire. Là. Ça peut être juste les personnes qui sont dans votre cercle. Donc ça, honnêtement, les réseaux sociaux, il y a énormément d'ingénierie sociale qui est faite là-dedans par les fraudeurs pour essayer d'apprendre à vous connaître et vous donner toutes vos informations de façon volontaire. Bien souvent, quand on est ciblé par du phishing, là, on va un peu utiliser comme l'urgence d'agir. T'sais? Donc, on va vraiment là, nous dire, il faut tout de suite, là, t'sais, vous avez une transaction qui va passer ou votre numéro d'assurance sociale a été utilisé dans une fraude pesée 1 pour parler à un agent. Là, t'sais. Ça a l'air toujours être urgent, la patente. Là. Donc, ça, c'est déjà suspect en partant là, quand c'est très urgent comme ça.
Puis, tu as utilisé le mot phishing. Ouais. Faut dire que le mot phishing, probablement vous le connaissez, mais c'est bon de dire, c'est le mot courant qu'on utilise pour l'hameçonnage, ouais, donc en ça. Anglais. Donc, allez à la pêche.
C'est ça. Puis, il faut se rappeler aussi qu'un profit attendu ou obtenu sans le moindre effort, là, c'est peu probable. Tu sais, si vous êtes, si vous venez pas de vous être inscrit à un concours spécifiquement, là, ben vous l'avez pas gagné le voyage en Floride. Là. Tu sais, c'est un peu, là, on nous, l'appât du gain est très, très fort. L'argent facile, c'est très attrayant. Tu sais, on n'accepte pas son retour d'impôt par virement Interac. Là, okay? Donc, ça, c'est une des fraudes qu'on voit passer par texto. Là, tu sais, pour accepter votre dépôt, le gouvernement s'est trompé puis il vous doit 800$. Pesez ici pour accepter votre virement Interac. Qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Ben, ils vont vous demander de rentrer votre numéro de carte puis votre mot de passe pour accéder à vos comptes bancaires. C'est-tu pas utile, ça, pour un fraudeur d'avoir directement vos informations de connexion bancaire? Mettez votre curiosité de côté. Ça aussi, c'est une fraude qu'on voit beaucoup, particulièrement sur Facebook Messenger. Là, on reçoit un message d'un ami qui est effectivement notre ami. Ça dit « Hey, c'est-tu toi, ça, dans cette vidéo? » Puis là, ça, c'est donc tentant de cliquer là-dessus pour voir c'est quoi cette vidéo-là. C'est toujours une fraude, cette affaire-là. Donc, c'est possible que votre ami s'est fait hacker son compte Facebook et là, le fraudeur est en train de cibler toutes les connaissances de cet ami-là. Donc, méfiez-vous beaucoup de ce genre de message-là. Puis méfiez-vous des demandes inhabituelles. C'est pas normal qu'on vous demande votre numéro d'assurance sociale puis votre NIP dans un contexte par rapport. Là, donc, soyez suspect. C'est pas normal qu'on reçoive non plus des avis de renouvellement de services qu'on ne s'est pas inscrit. Si vous n'avez pas de logiciel antivirus X, ben X ne devrait pas vous envoyer d'avis de renouvellement de logiciel. Ça en est un là, que je reçois constamment.
Oui, celle-là, puis celui de l'ARC, je le reçois.
Le texto pour déposer son retour d'impôt, oui, son remboursement de TPS par Interac.
Je l'ai déjà reçu plusieurs fois, où on m'appelle par téléphone, puis c'est une voix automatisée qui me parle. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a été victime d'hameçonnage?
Ben, dans un premier temps, on arrête de cliquer tout partout dans notre appareil.
Ça, c'est un des défauts que j'ai, et tu me le dis souvent, arrête de cliquer,
cliquer tout partout, OK? On peut même simplement là, fermer l'appareil, fermer le couvert et changer d'appareil. Parce que si on a installé par mégarde un logiciel espion sur notre appareil, donc en cliquant sur le lien, il y a peut-être un logiciel qui s'est installé à notre insu, ben si on est en train de changer tous nos mots de passe sur ce même appareil-là, ben l'espion est en train de capter tout ça. Donc, on pourrait signaler cette tentative de fraude. On peut le signaler à Desjardins au courriel protection@desjardins.com. Donc, Desjardins là, a toute une équipe là, pour essayer de contrer la fraude comme ça. Ils vont pas vous répondre, ils vont pas vous revenir, là, mais ça va aider quand même Desjardins à attaquer ces fraudeurs-là. On peut faire appel aussi au Centre antifraude du Canada. On peut aller sur Google. Qu'est-ce qu'on doit faire aussi rapidement? Ben, vérifier nos comptes bancaires, faire analyser nos appareils. Donc, une bonne pratique, là. Moi, j'en suis presque obsessif, là, mais je vérifie quotidiennement les transactions sur nos comptes bancaires et sur notre carte de crédit. Tu sais, ça passe, il se passe pas quelque chose à tous les jours, mais tu sais, je rouvre, tout a l'air beau. On sait que maintenant, pour les membres Desjardins, on a Equifax et TransUnion directement sur Accéder. Alors, très bonne pratique de simplement, périodiquement, puis périodiquement, là, mettons, au mois, là, donc la carte de crédit est révisée à tous les mois, on va vérifier son bureau de crédit. Ouais. Si on reçoit des alertes de bureau de crédit, donc si on est inscrit aux protections, on reçoit une alerte, prenez-la au sérieux, on va vérifier son bureau de crédit et on va vous dire, ben dépêchez-vous de changer les mots de passe, particulièrement vos mots de passe de votre adresse courriel. Pourquoi l'adresse courriel? Parce que généralement, si on veut réinitialiser un mot de passe de n'importe où, de n'importe quoi, ça va passer par notre courriel. Donc, si le fraudeur a accès à notre courriel, là, il va pouvoir facilement aller changer des mots de passe un peu partout. Alors, il faut nous protéger d'abord notre courriel principal, peut-être nos applications bancaires aussi, avec un mot de passe compliqué. Puis encore là, pas sur le même appareil qu'on a cliqué pour se faire frauder. Donc, ça, c'est les bonnes pratiques à faire, là, donc vraiment d'être à l'affût de ce qui pourrait se passer, de surveiller nos trucs. Puis le bureau de crédit, ben si on a une cote de 800 sur Equifax, à chaque mois, elle bouge. Là. Ça va bouger de 8, 10, 12 points, c'est correct. Là. La vie bouge, puis les soldes de nos trucs changent. Mais si quelqu'un se fait faire des demandes de crédit, à votre insu, là, votre cote va dropper là, beaucoup, là. Ça peut tomber de 40-50 points. Si ça ne vous dit rien, là, urgence d'agir, on appelle Equifax, on met en branle tout de suite un processus pour contrer le fraudeur.
Puis on peut vérifier en plus de détails. Il y en a qui ont accès à Equifax avec plus de détails, qu'on reçoit le courriel vraiment chaque mois pour dire pas de nouvelles, bonnes nouvelles.
Ouais.
Puis on peut aller vérifier en détail notre bureau de crédit pour voir s'il y a eu des demandes, s'il y a du crédit sur notre bureau de crédit.
Quels sont les comptes ouverts à notre nom, exact.
Exactement. Donc, une dernière chose qu'on a appris dans nos formations et que j'ai toujours trouvé utile, je l'utilise tout le temps, c'est comment est-ce qu'on peut reconnaître un site Internet frauduleux?
Puis ça, c'est quand même pas évident, là, parce qu'ils sont vraiment bons, les fraudeurs. Donc, quand ils vont créer un site Internet frauduleux, donc par exemple, le fraudeur va recopier le site de Desjardins, puis ça ressemble, tu sais, vraiment bien. Sur la barre d'adresse, donc, tu sais, au www.desjardins.com, là, par exemple, à gauche de l'adresse, il y a un petit cadenas. Donc, ça, c'est généralement, s'il n'y a pas de petit cadenas, là, c'est un site qui peut indiquer qu'il est frauduleux. On veut voir le petit cadenas qu'il y a là, on peut cliquer dessus, ça va nous donner des renseignements de sécurité sur le site en question. Bien souvent, dans un site frauduleux, on sait que, tu sais, sur le vrai site Desjardins, là, partout où on clique, ça nous amène à une nouvelle page, hein. Bien, les sites frauduleux, là, ils ne feront pas des sites web là, à puffonner de 200 pages de profondeur. Là. Donc, souvent, tu sais, 2-3 clics, puis soudainement, ça nous amène à un cul-de-sac, puis on a l'impression qu'il n'y a pas de profondeur dans le site. Fait qu'avant de rentrer des informations, on peut peut-être essayer de naviguer le site, voir si c'est un site qui fait du sens. Soyez attentifs, les fraudeurs, là, on dirait qu'ils n'ont pas eu des très bonnes notes dans leur cours de français. Ils font souvent des fautes d'orthographe. Donc, si, tu sais, je vous le dis, là, Desjardins, il n'y a pas même de fautes d'orthographe sur le site web. Là. Donc, si on se promène quelque part et on remarque du drôle de français, des fautes d'orthographe, c'est possible que ce soit un site frauduleux. Les coordonnées aussi vont être difficiles à trouver, alors qu'une entreprise légitime, bien souvent, ses coordonnées, ils ne les cachent pas, là, ils vont les mettre. Donc, c'est un petit peu ça qu'il faut faire attention là, dans les sites web. On peut aussi, quand on reçoit un courriel, là, une des façons là, de vérifier le courriel qu'on reçoit, bien souvent, le nom dans le haut du courriel, là, il va être écrit, mettons, juste Desjardins. Mais l'adresse est cachée, donc si je clique sur ce mot-là, là, si je fais juste afficher l'adresse complète, on va se rendre compte que ça n'a pas rapport. Là. C'est une adresse bien bizarre à hotmail.com, mettons. Tu sais, clairement, Desjardins n'utilise pas une adresse hotmail. Là. Donc ça peut être un méga indicateur là, que c'est un courriel frauduleux.
Puis je pense qu'il faut juste le message de tout ça, c'est demeurer, un, vigilant et deux, sceptique. Quand on reçoit, on veut souvent être gentil, on veut souvent répondre à quelqu'un, puis avoir cette interaction-là. Mais avant de le faire, c'est correct des fois de prendre un petit peu de temps puis de s'assurer que tout est correct. Nos renseignements personnels, faut les protéger.
Exact.
Donc, merci beaucoup, Martin. On vous répète, on n'est pas des experts. C'est l'information qu'on a eue sur le site Desjardins. Donc, si vous voulez plus d'informations, faites-nous signe, puis on pourra vous envoyer le lien. Pour nos clients et partenaires, si vous avez des questions concernant ce balado, laissez-nous savoir. Nous vous invitons à nous appeler. Martin et moi sommes toujours disponibles. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.